إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ما تتابع الليل والنهار. اللهم صل على النبي الكريم كلما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. أما بعد، إخوتي الأحبة، نواصل بعون الله عز وجل قراءة كتاب شرح الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، مع شرح فضيلة الشيخ محمد بن سعيد الرسلان حفظه الله تعالى. وقد توقفنا على باب وجوب صلة الرحيم، باب وجوب صلة الرحيم. طيب، فما زلنا مع قوله رحمه الله تعالى: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى: يا بني كعب ابن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها.
Yassine, tu as la traduction ? Allez, bismillah. Hein ? Vers hadith 48. Normalement, tu as le numéro des hadiths. Hadith 48. حديث أبي هريرة. Très bien. Tu vois l'édition, c'est quoi l'édition? Ah, c'est la même que le frère. Barakallahu fik. Tayeb. يقول الشيخ رسلان حفظه الله تعالى: وفي الحقيقة هذا مقتبس من شرح زيد الشيخ زيد المدخلي رحمه الله هذا الكلام. طيب، يقول: وهذه الصلة بتلك الطرق المباركة تقابلها القطيعة، تقابل يعني صلة الرحيم بهذه الطرق يعني صلة بالعلم، صلة بالمال، صلة بالأقدام كما ذكرنا، وتقابل هذه الطرق من الصلة القطيعة، القطيعة أي قطيعة الرحيم. فالصلة من البر والقطيعة من الإثم. فليحاول الإنسان أن يكون واصلا لأقاربه بحسب قربهم وبعدهم طالما هو يمت إليهم بالصلة، وهم كذلك من قبل أبيه أو أمه، فإنهم أرحام أوجب الله عز وجل صلتهم ونهى عن القطيعة. نهى الله عز وجل علينا عن القطيعة، وعدها من الكبائر، من كبائر الذنوب القطيعة. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذن هذا الوعيد شديد من الله عز وجل للذين يقطعون أرحامهم، والقطيعة أمرها عظيم وإثمها كبير، والصلة فضلها كبير وأجرها عظيم عند الله تبارك وتعالى. Donc on poursuit ici l'explication de ce hadith. On avait mentionné la semaine dernière les différentes façons d'être bienfaisant, bienveillant envers Ar-Rahim. Donc Ar-Rahim, on a dit, ce sont tous les proches, Tayyib, qui ont un lien de sang avec toi, un lien de parenté, que ce soit du côté de la mère ou du père. On avait dit que, bien sûr, la meilleure des choses que tu puisses leur faire, c'est déjà leur transmettre la religion d'Allah tabarak wa ta'ala, de ce que tu sais et de ce que tu peux transmettre. Et deuxièmement aussi, de manière financière, hein, les aider financièrement. وَهَذَا عِنْدَ الْقُدْرَةِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ مِنْ الْوَاصِلِ وَعِنْدَ الْحَاجَ مِنْ الْمَوْصُولِ. C'est-à-dire que si bien sûr tu es dans la capacité financièrement de les aider, et si eux aussi, bien sûr, ils sont dans le besoin. Vous voyez ? Parce que si tu es, si eux sont plus dans l'aisance que toi, forcément, yani, c'est toi qui auras besoin d'aide plus que eux. Vous voyez ? Mais si toi tu es, alhamdoulilah, tu es dans l'aisance financièrement et que eux sont dans le besoin, eh bien, c'est une façon d'être bienfaisant envers eux. Et troisième façon, yani, bil aqdam, c'est-à-dire en leur rendant visite. En leur rendant visite, yani, selon tes capacités, bien sûr. Et si tu ne peux pas, à travers des courriers, des messages, des appels téléphoniques et autres. D'ailleurs, maintenant, il parle le Cheikh, et en vérité, ça s'est repris du Cheikh de Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah. Donc, il rapporte le Cheikh Raslan de sa parole, son Cheikh. Il dit, à l'opposé de tout ça, à l'opposé de tout ce qu'on a mentionné comme bienfaisance envers ceux qui ont un lien familial avec toi, il y a ce qu'on appelle al-qati'a, la rupture. D'accord ? La coupure, la rupture. Donc, comme c'est là, la liaison des liens de parenté est un acte de bienfaisance, eh bien la rupture est lui un péché, forcément, et un acte de malveillance. Donc la personne doit essayer, yani, du mieux possible, de lier les liens avec ses proches, en fonction, bien sûr, de la proximité de chacun d'entre eux. Comme on a dit, chaque membre de tes proches ne sont pas tous au même niveau de proximité. D'accord ? Tes parents, bien sûr, sont plus proches de toi que tes oncles et tes tantes. Il n'y a pas de doute. Donc chacun proportionnellement à sa proximité envers toi. Vous voyez ? Tant que, donc, ils ont un lien avec toi, alhamdulillah, tu te dois de maintenir ce lien de parenté. Donc ce sont ceux qui ont encore une fois un lien avec toi du côté de ton père ou de ta mère. Ce sont ceux que l'on appelle al-arham, d'accord ? Al-Arham, toutes les personnes qui ont un lien de sang avec toi du côté paternel ou maternel. Allah tabarak wa ta'ala, il a ordonné de maintenir ce lien-là. Et il a interdit, bien sûr, la rupture. Ceci est interdit. Et il a même considéré comme faisant partie des kaba'ir al-dhunub, des péchés majeurs. Les kaba'ir al-dhunub, les péchés qui sont sous la menace, soit d'une malédiction, soit d'un châtiment en enfer, hein, et ainsi de suite, ou d'une menace de la part d'Allah tabarak wa ta'ala. Il dit notamment Allah Jalla wa Ala dans la sourate Muhammad, verset 22-23, dans le sens du verset, il dit: ne vois-tu pas ceux qui ont tourné le dos, ceux qui ont tourné le dos au Coran, à la religion d'Allah tabarak wa ta'ala, comment cela les a amenés à semer le désordre sur terre et à rompre les liens de parenté, et à rompre leurs liens de parenté. Donc il dit Allah ici que parmi les conséquences du fait de se détourner du Coran, de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, premièrement, semer le désordre sur terre, et de deux, rompre les liens de parenté. Taïeb. Non, mais de nos jours, c'est visible et c'est quelque chose de clair. Yani chez les kuffars et malheureusement chez aussi certains musulmans. Puis dit Allah tabarak wa ta'ala, et ceux-là sont ceux qu'Allah jalla wa ala a maudit, a rendu sourd et a aveuglé. Voyez ? Donc là on voit que la rupture des liens de parenté fait bel et bien partie des péchés les plus graves. Donc la rupture est une chose qui est très grave et un péché immense. De la même façon que lier les liens de parenté, eh bien, est un acte énormément récompensé auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. فَقَدْ يُوَاجِهُ الْإِنسَانُ مِنْ أَرْحَامِهِ شَيْئًا يَكْرَهُ فَإِذَا وَاجَهَ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَغَلَّبَ عَلَى ذَلِكَ بِالصَّبْرِ عليه يتغلب على ذلك بالصبر اصبروا فالاستمرار في الصلة وعدم القطيعة وينسى حظوظ النفس حتى يغير الله أو حتى يغير الله عز وجل الأحوال من حال القطيعة إلى حال الصلة بين الجانبين فتصلح المجتمعات ويحصل التآلف بين الأقارب في النسب وكذلك الأقارب بالجوار والأصحاب فمجتمع لا يكون سعيدا إلا إذا كان بين أهله التواصل والتواد والتراحم والمحبة المحبة الشرعية وأما القطيعة فكلها شر والانتقام للنفس كذلك يجر إلى شر كبير والصبر وتراضي ثمراته طيبة وعواقبه حميدة فقد قيل اصبر والصابر تدرك المكارم. Puis il dit, il se peut que la personne soit confrontée au mal ou à certains mauvais comportements de la part de ses proches. Il se peut que tu sois confronté, tu te retrouves face à des comportements ou des paroles, que tu vois des choses de la part de tes proches que tu détestes, que tu n'aimes pas, ça te fait du mal. Il dit le cheikh, même dans ce cas-là, tu dois faire face à ces choses que tu détestes. Et tu dois prendre sur toi en patientant, en patientant et en continuant à garder, à maintenir ce lien avec eux malgré ça, et de ne pas couper ces liens, vous voyez, et d'oublier la fierté personnelle ou les tensions privées, les problèmes entre un tel ou un tel, et de patienter, de fermer les yeux sur ça. On appelle taghaful, taghaful, c'est-à-dire fermer les yeux, faire comme si de rien n'était, oublier. Et patienter jusqu'à ce que Allah tabarak wa ta'ala change l'état et le cœur des gens. Avec le temps, Allah subhanahu wa ta'ala change le cœur des gens, surtout si la personne patiente et continue à garder le meilleur du comportement et à essayer, malgré tout ça, de lier et de maintenir les contacts. Et Allah jalla wa ala, il est capable donc de lier ces liens de parenté. Voyez, même si ils ont été rompus, Allah il peut aussi, bien sûr, les lier comme ils l'étaient avant la rupture, jusqu'à ce que la société se réforme. Parce que parmi les causes qui réforment les sociétés et les peuples, les familles tout d'abord, bien sûr, les foyers, puis les quartiers, puis les villes, puis les pays, puis les sociétés entières, et bien parmi ces causes, justement, parmi ces causes, maintenir les liens de parenté entre les parents, les enfants, les frères, les sœurs, les cousins, les oncles, les tantes. Ce lien-là de parenté fait partie des choses qui permettent à la société d'être saine. Na'am. Et cela va également renforcer et engendrer l'harmonie entre les proches, mais également entre les proches voisins. Donc ce n'est pas seulement juste les proches parmi ceux qui ont un lien de sang, mais c'est aussi avec les autres, les voisins, les amis. Voyez. Et donc il dit le cheikh, la société ne pourra être heureuse et être dans le bonheur que lorsque ceux qui la composent vivront dans l'harmonie, dans l'entente, l'indulgence, la tolérance, l'amour légiféré religieusement. Alors que la rupture des liens de parenté ne comporte aucun bien. Au contraire, la rupture tout entière n'est que du mal. N'est que mal. C'est un fléau. Et également le fait d'être rancunier, la rancune, ou les représailles, parce que un tel t'a fait quelque chose, donc tu veux te venger. Tu veux avoir recours à des représailles pour te venger, pour assouvir ta vengeance. Cela n'amène que du mal. Cela n'amène que du mal, comme on le voit, ça déchire des familles entières. Vous voyez ? Et donc, la patience, l'entente ont des fruits qui sont délicieux et la finalité louable. On dit par exemple isbir wa sabir, patiente et persévère dans ta patience. Isbir wa sabir, patiente et persévère dans cette patience là tout de l'équil makare, et tu atteindras les comportements nobles. Tu atteindras les comportements les plus nobles. Bi'idhnillahi azza wa jal. Wa ma'na al-hadith. Yaqul al-shaykh, shubbihat qati'atu ar-rahim bil-harara. Bil-harara. Li'anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها سأبلها ببلالها فشبهت قطيعة الرحم بالحرارة ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة ومنه بلوا أرحامكم معنى بلوا أرحامكم أي اغسلوها وفي الحديث الصحيح الذي ذكره الألباني في الصحيح رحمه الله بلوا أرحامكم ولو بالسلام بلوا أرحامكم ولو بالسلام بلوا أرحامكم بمعنى صلوا أرحامكم ولو بالسلام السلام عليكم أي ندوها بصلتها وهم يطلقون النداوة على الصلة كما يطلقون اليبس على القطيعة. Donc le sens du hadith ici, donc vous rappelez, il dit à la fin du hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa'abulluha. Donc si on traduit littéralement, il dit, je vais l'arroser, je vais arroser ce lien de parenté, je vais l'arroser bibilaliha, avec son eau. Je vais l'arroser avec son eau. Vous vous rappelez, avec la rosée. Le bilal, on avait dit que c'était la rosée du matin. Hein, les gouttelettes que l'on voit sur les plantes, les herbes, on l'appelle al bilal ou al balal. On peut retrouver ça le soir aussi, dans certains endroits. Donc il dit ici, je vais mouiller, je vais humidifier ces liens de parenté avec la rosée, justement. La rosée du matin. Hein? Donc en fait, ici, on a comparé la rupture des liens de parenté par la chaleur. La chaleur, et on a comparé, au contraire, le fait de lier ce lien de parenté-là par el-burouda, par la fraîcheur. D'accord ? Comme si, yani, la rupture, c'était quelque chose de sec, de chaud, et que le fait de venir justement lier les liens de parenté, ça ramène de la fraîcheur, hein, et de l'humidité. C'est pour ça qu'il a dit aussi dans un autre hadith rapporté par le cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bullu arhamakum, mouillez ou arrosez vos proches, arhamakum, ou vos liens, arrosez-les, arrosez vos liens de parenté. C'est-à-dire liez-les. D'accord ? Il a dit walaw bisalam, ne serait-ce que par un salam, ne serait-ce que par le salut islamique, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'ailleurs, c'est-à-dire donc arrosez-les en liant ces liens-là. Et donc les Arabes, ils utilisaient le terme an-nadawa, l'humidité, la fraîcheur, hein, pour exprimer ou pour parler de ces liens de parenté. Comme ils utilisaient l'expression de sécheresse, de chaleur, d'aridité, pour parler des ruptures des liens de parenté. Vous voyez ? Donc il y a plein, bien sûr, de références par rapport à ces images. Comme on a dit, le fait de lier les liens de parenté, tu arroses, comme si tu arrosais une terre morte qui fait naître ensuite des plantes, des herbes, hein, verte, des fruits, etc. Donc les liens de parenté font naître, ou plutôt lier les liens de parenté, ça fait naître ces fruits qui sont l'amour, l'entente, hein, la réforme des sociétés, etc. Alors que le contraire, le fait de couper les liens de parenté, ça laisse la terre morte, sèche, et rien ne peut pousser. Si ce n'est la haine, hein, la haine ou la mésentente, ou les disputes, et ce genre de choses. طيب ما يؤخذ من الحديث أولا من معاني صلة الرحم إنذار الأقارب من النار وحثهم على الأعمال الصالحة لإنقاذهم من سخط الله وعذابه لأن الجزاء يكون على أساس الإيمان والعمل الصالح ولا تنفع القرابة والنسب في يوم تشخص فيه الأبصار قال صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. طيب. Donc qu'est-ce qu'on tire du hadith? Premièrement, parmi les choses qui impliquent ou qui sont impliquées par les liens de sang, le fait de maintenir les liens de sang, eh bien, tout d'abord, avertir, mettre en garde tes proches contre l'enfer. Mettre en garde tes proches contre le feu de l'enfer, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anqidhu anfusakum minan nar. Sauvez vos personnes du feu de l'enfer. Craignez Allah tabaraka wa ta'ala. Car je ne pourrai rien pour vous. Même si je suis ton père, même si je suis ton frère, ton fils, je ne pourrai rien pour toi, yawm al-qiyamah, devant Allah tabaraka wa ta'ala. Taïeb.
si tu ne fais pas les œuvres, si tu n'obéis pas à Allah, tabarak wa ta'ala, tu dois dire cela à tes proches. Surtout si tu vois qu'ils sont négligents dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Ah, le prophète, tu parles, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, là, bien sûr, c'est pour montrer la gravité, en fait, de celui, Annie, qui meurt sur le kufr, surtout. Parce que là, quand il s'est adressé à ces gens-là, à ses proches, beaucoup parmi eux étaient des kuffars. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne pourra pas intercéder pour les kuffars. Pour intercéder que pour les croyants. Vous voyez ? Donc c'est montrer vraiment la gravité du kufr. Et que le croyant n'est pas à l'abri aussi du kufr. Tant qu'il n'est pas mort, il faut qu'il fasse attention à tout ce qui pourrait annuler son islam aussi. Vous voyez ? Mais il n'y a pas de doute que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam intercédera pour les musulmans yawm al-qiyamah et que son intercession sera acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas que la sienne, même l'intercession de certains parmi les croyants, Allah jalla wa ala, leur permettra aussi d'intercéder. Oui, c'est ça que tu voulais dire. Je t'ai vu lever la main.
Oui, sous la volonté d'Allah, l'intercession.
Non, non.
C'est pas tout le monde qui pourra être
intercédé.
Le prophète voudrait intercéder pour certaines personnes, ce sera sous la décision d'Allah.
Bien sûr.
La personne, elle passera ou elle passera pas.
Comme on avait dit la semaine dernière, il y a trois conditions. Première condition, qu'Allah Jalla wa Ala agrée celui qui veut intercéder, c'est-à-dire qu'il fasse partie des croyants déjà, qu'il soit mort sur le tawhid. Deuxième condition, qu'Allah il agrée la personne pour qui on intercède. Si toi tu viens mais tu veux intercéder pour un kafir, tu ne pourras pas. Il faut qu'Allah Jalla wa Ala il agrée les deux personnes. Et troisième condition, la permission d'Allah. Man dalladhi yashfa 'indahu illa bi'idhni. Hein, qui peut intercéder auprès de lui, si ce n'est avec sa permission. Donc c'est ça, tu dois, premièrement, les avertir du jugement, les avertir du châtiment de l'enfer, et de les encourager, les inciter à faire les bonnes œuvres, à obéir à Allah tabarak wa ta'ala, afin qu'ils sauvent et qu'ils préservent leur personne de la colère d'Allah et de son châtiment. Parce que la récompense, la rétribution, elle ne peut exister que s'il y a ce socle qui est présent. Et ce socle, c'est la foi en Allah tabarak wa ta'ala et les bonnes œuvres. Donc si la personne meurt sur le kufr, il n'y a pas ce socle qui est la foi, l'iman. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pourra rien de par son intercession pour celui qui est mort sur le kufr. Il ne pourra rien pour lui. Et son lien de sang qu'il aurait, d'ailleurs son père lui-même, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah lui-même a dit que son père était en enfer. Le père du prophète lui-même. La personne, avec sa mère, la plus proche de lui, au niveau du sang. Est-ce qu'il pourra faire quelque chose pour lui ? Pour rien. Vous voyez ?
Je veux dire, le père du prophète, c'est la législation de Isa, c'est ça ?
À l'époque, les Arabes étaient sur les chefs. Et la plupart étaient sur la religion d'Ibrahim. Ils avaient encore les fondements de la religion d'Ibrahim. Mais concernant le père de Mohammed, même s'il est mort avant la prophétie, le prophète il a dit qu'il est en enfer. Ça, c'est une révélation de la part d'Allah. Parce que personne ne peut dire un tel est en enfer, il en est comme ça. Plus il l'a dit, c'est qu'Allah lui a révélé. Ça pour dire que voilà, même son père, il ne pourra rien pour lui. Vous voyez ? Non. Donc ces liens de proximité ou de parenté que tu as avec les autres, toi-même, tu ne pourras pas en profiter. Si tu as un proche, hein, qui est quelqu'un qui crée en Allah, tabarak wa ta'ala, qui est à la mosquée du matin au soir, qui crée en Allah subhanahu, même toi tu ne pourras pas profiter de lui si tu n'obéis pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf si bien sûr Allah lui permet d'intercéder en ta faveur, que tu es mort sur le tawhid. Il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, من بطا به عمل لم يسرع به نسب. Celui dont les œuvres n'ont pas été faites ou sont arrivées en retard, sont traduites littéralement, celui dont les œuvres sont en retard, eh bien leur lien de parenté ne pourra pas les avancer. D'accord ? C'est une image pour dire que celui qui n'a pas fait les œuvres, ses liens de parenté ne pourront rien pour lui. Ils ne pourront pas créer des œuvres pour lui. Non, pas possible.
ثانياً رد العقيدة الفاسدة التي شاعت بين الجهلة والمبتدعين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون شفيعاً وخير وسيلة عند الله عز وجل وبهذه الوسيلة ندخل الجنة ولا نحتاج إلى الأعمال والعبادات فالحديث يرد ذلك.
Deuxièmement, dans ce hadith il y a la réponse et la réfutation à une croyance qui est fausse, erronée, qui est malheureusement répandue, propagée au sein des ignorants et des innovateurs. Certains croient que le messager sallallahu alayhi wa sallam sera donc un intercesseur auprès d'Allah tabarak wa ta'ala, et que grâce à cette intercession là eh bien il va rentrer au paradis, et qu'ils n'ont pas besoin de faire de bonnes œuvres, et qu'ils n'ont pas besoin par conséquent d'adorer Allah tabarak wa ta'ala. Vous voyez, ils croient que sans faire d'adoration, sans faire d'acte, sans prier, sans jeûner, sans rien du tout, ou en faisant le moins possible, on va dire, ils croient qu'ils vont aller au paradis parce que le prophète il a intercédé pour lui sallallahu alayhi wa sallam. Donc le hadith réfute cela. Le hadith il est clair. Vous voyez, donc celui qui croit ça, rapporte-lui ce hadith dans lequel il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa inni la amliku laki min Allahi shay'a. Dis-lui, même il a parlé à sa fille Fatima, il lui a dit, ya Fatima bint Muhammad, sauf ton âme de l'enfer, je ne pourrai rien pour toi, je ne pourrai rien pour toi contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yani si il décide de te châtier. S'il décide de te châtier. D'accord ? Yani, s'il décide, malgré mon intercession, de te châtier. D'ailleurs, car rien ne nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala acceptera l'intercession pour tout le monde. C'est peut qu'il l'accepte pour certains, mais pas à d'autres. Donc à ceux qu'Allah n'aura pas accepté l'intercession, eh bien, le prophète ne pourra rien pour eux. Et ça ressemble un peu peut-être à certaines croyances chez les chrétiens. Chez les chrétiens qui croient que Isa, hein, il s'est fait crucifier, alayhi salam, et que sa mort fait que tous rentreront au paradis parce qu'il a expié les péchés de tout le monde à travers sa mort. Ça y est, il se peut que ce soit aussi une croyance qui ressemble à celle de ces Nasara. Et ça c'est totalement faux. Celui qui n'a pas obéi à Allah tabarak wa ta'ala, celui qui ne s'est pas éloigné des interdits d'Allah jalla wa ala, et qui meurt yani, en n'ayant pas fait de bonnes œuvres, personne ne pourra lui donner des bonnes œuvres à sa place, ou lui faire des bonnes œuvres à sa place.
ثالثا بيان أن أول ما يجب على الداعي إنذار أهله ثم عشيرته ثم الذين يلونهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Troisièmement, ici ce hadith, il nous démontre que la première chose que le da'i, le prédicateur, ou plutôt les premières personnes qu'il doit appeler et qu'il doit prêcher, ce sont sa famille les plus proches. Ensuite, al-ashira, yani sa, son clan, sa tribu, hein, et ceux qui les suivent, et ceux qui les suivent dans l'ordre de proximité. Donc tu ne vas pas commencer par prêcher tes collègues et tes amis alors que tu n'as pas encore commencé à appeler ta famille, tes frères, tes sœurs, tes parents, tes enfants, à tawhid, à l'adoration d'Allah, tabarak wa ta'ala seul, à la prière. Ça y est. Et petit à petit, tu élargis ton champ de da'wa, hein, tes voisins, ou d'abord ta famille plus éloignée, puis tes voisins, tes amis, et etc. Comme l'a fait le prophète, alayhi salatu wassalam. طيب. فننتقل إلى باب صلة الرحيم. باب صلة الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحيم. نعم ياسين.
Juste répéter pour peut-être les sœurs qui n'ont pas bien entendu et qui écoutent. Donc le hadith ici, rapporté par Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, qui a dit un jour, un bédouin a accosté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était en train d'avancer, et il lui a dit, informe-moi de ce qui me rapproche du paradis et de ce qui m'éloigne de l'enfer. Et il lui a rétorqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu adores Allah et tu ne lui associes rien. Tu accomplis ta prière et tu acquittes la zakat et tu maintiens les liens de parenté. Hadith sahih. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Combien de ibadat ici? 4. La première, l'adoration d'Allah. Ta'budullah wahda. Adore Allah seul. La deuxième, prière, iqamat salat. La troisième, adaw zakat. Et la quatrième, silatul rahim. طيب إذن الحديث صحيح في الصحيحين كما قلنا ورجال الإسناد رجال الإسناد حدثنا أبو نعيم وأبو نعيم هو الفضل ابن دكين رحمه الله تعالى ثم عمرو ابن عثمان ابن عبد الله ابن موهب الكوفي وهو الثقة. Donc là on passe vite fait inchallah sur les rapporteurs du hadith. Premièrement, l'imam al-Bukhari
a entendu ce hadith d'un certain Abu Nu'aym. D'accord ? Il faut savoir que Abu Nu'aym, il y en a plusieurs, bien sûr. Et Abu Nu'aym de Al-Bukhari, c'est Al-Fadlu ibn Dukayn. À ne pas confondre avec Abu Nu'aym Al-Asbahani. D'accord ? Abu Nu'aym Asbahani, Tayyib, qui est mort avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Donc là c'est Abu Nu'aym ibn Dukayn, rahimahullah. Puis on a Amr ibn Uthman ibn Abdullah ibn Mawhab al-Kufi, donc de Kufa en Irak, et c'est un rapporteur fiable. Thumma Abu Ayyub la thumma Musa ibn Talha min at-Tabi'in. Musa ibn Talha min at-Tabi'in wa Abu Ayyub al-Ansari wa huwa Khalid ibn Yazid. Khalid ibn Yazid. Non. شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها رضي الله عنه. Puis on a donc le compagnon qui a rapporté ce hadith, qui est Abu Ayyub al-Ansari, compagnon célèbre dont le prénom est Khalid ibn Yazid. Khalid ibn Yazid, qui a donc assisté à l'allégeance à Al-Aqaba, d'accord, l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle Bay'at al-Aqaba. Bay'at al-Aqaba, pourquoi l'Aqaba? Parce que c'est le nom de l'endroit où ils ont fait l'allégeance, qui est proche de Mina, qui est proche de Mina. C'est pour cela. Donc cela, ça s'est déroulé à la 12e année après la révélation. Après la révélation, c'est-à-dire avant même la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en l'an moins 2 de l'hijra. Moins 2 de l'hijra, c'est là qu'ils ont fait Bay'at al-Aqaba. Et Abu Ayyub était présent à ce moment-là. Et il assistait aussi à Badr, à la bataille de Badr. En quelle année? La bataille de Badr. Notre historien. T'as entendu ou?
Non.
Alhamdulillah. Tu l'as su dans l'Afkar al Sabah al Masa, cher Aslan?
Je l'ai pas.
Hein? Tu l'as fait? Cher Aslan? Alors, les invocations du matin et du soir. Là?
En l'an 2 de l'Hégire. Badr. Razwat al-Badr, l'an 2 de l'Hégire. Mais il assistait en fait aussi à toutes les expéditions menées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Ayyub al-Ansari était présent, radiyallahu an. Thumma yaqul a'rabiyan fa qawluhu anna a'rabiyan. Al-a'rabi imma huwa لقيت ابن صبرة أو صخر ابن القعقاع والأعرابي هو البدوي الذي يسكن البادية. Puis il dit ici donc le bédouin al-A'rabi. Dans le hadith, son nom n'est pas mentionné, mais les muhaddithoun, les savants du hadith et les historiens ont fait des recherches, et certains ont dit que c'était un dénommé لقيت ابن صبرة. D'autres ont dit que c'était صخر ibn al-Qa'qa'. D'accord? Donc soit Laqid ibn Sabira, soit Sakhru ibn al-Qa'qa'. Quoi qu'il en soit, al-A'rabiyu, c'est un bédouin, badawi. Le badawi, en français on dit bédouin, quelqu'un qui vit en tant que nomade dans le désert. D'accord? Tayyib. Idhan fi hadha al-hadith الترغيب في السؤال الترغيب في السؤال عن العلم والعبادات التي إذا فعلها الإنسان قربته إلى الله جل وعلا وظفر بالجنة
وبرضا الله سبحانه وتعالى والبعد عن النار وعن سخط الله. ولا شك أن نيل الجنة ونيل رضا الله سبحانه وتعالى والبعد عن النار والبعد عن سخط الجبار من الغايات التي يسعى إليها العقلاء من عالم الجن والإنس. فسأل هذا الأعرابي عن شيء يقربه إلى الجنة ويبعده عن النار، فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأربع عبادات. أولاها عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال هنا تعبد الله العبادة، أي هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ويدخل فيها الفرائض الواجبات المستحبات واجتناب المحرمات والمكروهات، كل هذا يدخل في العبادة. Donc, dans ce hadith, on voit l'importance d'encourager et d'inciter les gens à poser des questions, à poser des questions sur la science religieuse, à poser des questions sur les adorations qui permettent à la personne de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. On doit savoir, on doit se poser la question, qu'est-ce qui me rapproche le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que je dois faire? Taïeb, si on ne sait pas, on doit poser la question. On doit poser les questions à savoir quels sont ces actes aussi qui nous permettent de nous éloigner du feu de l'enfer et de nous préserver de la colère d'Allah tabarak wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que obtenir l'agrément d'Allah, obtenir le droit d'entrer au paradis d'Allah et être préservé du châtiment et de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de doute que c'est une chose que l'on doit absolument connaître et savoir. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le bédouin lui a posé la question sur ses actes, il lui a recommandé 4 adorations. Pas plus, 4 adorations. La première, qu'est-ce que c'est? L'adoration d'Allah. Ibadatullahi wahda. Il lui a dit, ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Toute adoration. Donc l'adoration, les frères, comme l'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, hein? C'est quoi, Anas? L'adoration? C'est un acte ou une parole qu'Allah il aime et qu'il agrée. Zid? T'as oublié? Allah. Apparent et caché. Apparent et caché. C'est ça l'ibada, l'adoration. C'est un acte ou une parole qu'Allah il aime et qu'Allah il agrée, que ce soit quelque chose qui est visible ou invisible, yani aux yeux des gens. Yani. Voyez? Non. Tu l'as celui-là, Anas? L'afkar, tu l'as? Akhi, tu l'as celui-là? On fait. Ça, tu l'as? Ah, trop ça. C'est le mot. Moutoun. Tu as 4-5 moutoun dedans. Donc, il t'aime Tawhid, Thum Talatha, etc. Non. Taïeb. Il rentre dans le terme, donc, Al-Ibada, l'adoration, les obligations, bien sûr, qu'Allah Jalla wa Ala a imposé mais aussi les choses qui sont recommandées, les mustahabbat, ça rend dans l'ibadat ça aussi, les recommandations d'Allah, les choses facultatives qu'Allah il aime et agrée. Et rentre dedans également, bien sûr, le fait de s'éloigner des interdits, des muharramat. Toi, quand tu t'éloignes de l'alcool, quand tu délaisses az-zina, quand tu délaisses toutes ces choses qu'Allah tabarak wa ta'ala a interdites, et bien sûr, en premier lieu, shirk, eh bien, sache que tu adores Allah tabarak wa ta'ala en faisant ça. Tu es en adoration d'Allah lorsque tu t'éloignes des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, lorsque tu délaisses aussi al-makruhat, quand tu délaisses quelque chose qu'Allah il n'a pas interdit, mais qu'il déteste, qu'il n'aime pas. Ça rend al-makruhat, taïeb, alayka salam, wa rahmatullah. Et bien, sache que ça aussi, ça fait partie de l'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala. Non.
Genre,
qui
n'a pas interdit
ou
qui n'aime pas,
genre
le
perdre du temps, dans autre chose. Un exemple. Il y a quoi comme exemple? Des choses qui sont macro. Le fait de ne pas la mettre? Non, ça, ça dépend. Ça dépend des endroits, ça dépend des pays. Comment? Non, il y a des choses qui sont interdites. Comme par exemple, il y a des savants qui disent que celui qui ne répond pas lorsque la personne éternue et qui dit Alhamdulillah, celui qui ne le dit pas Yarhamukallah, il a commis une chose qui est détestable. D'accord? Il n'a pas commis un péché. Là, ça devient. Donc, si toi, tu délaisses cette chose-là et tu dis Yarhamukallah, Alhamdulillah, tu es récompensé. Tu voulais dire quoi, frère? Comment?
Le marché, c'est un lieu.
Sourd, le marché. Ça dépend le pourquoi tu y vas. Ça dépend l'intention, le marché, tu vois. Si tu y vas parce que tu n'as pas le choix, il faut bien que tu fasses tes courses. C'est pas une chose qui est détestable en soi, c'est permis. C'est moubère. C'est moubère. Le mohim, une chose qui est détestable, c'est une chose que si tu l'as fait, tu n'as pas commis de péché. Tu le fais, tu n'as pas commis de péché auprès d'Allah. Mais si tu le délaisses, eh bien, tu es récompensé. D'accord? C'est ça une chose qui est le makruh.
Allahu a'lam. Les choses douteuses, entre le halal et le haram.
Là, c'est quelque chose qui est recommandé. Qui est recommandé. Non. Mais il y a plein d'exemples comme ça. Mais c'est vrai que comme ça, c'est difficile. Non.
Le fait de prier la
dette
découverte.
Là, c'est pas détestable. C'est pas détestable. Il n'y a rien sur ça. Non.
Souffler dedans.
Non, peut-être là. Si c'est ton plat à toi, il n'y a pas de mal. C'est vrai qu'il ne faut pas le faire lorsque tu manges dans la même assiette que les autres. Ça, tu ne fais pas, tu ne souffles pas dans le plat. Mais en avance, Inch'Allah, c'est mieux, non? Hein?
Juste une demande. Est-ce que bailler la bouche, c'est détestable ou non?
Ben, si ça peut gêner les autres autour de toi, oui. S'il y a des gens autour de toi, tu mets la main devant la bouche. Tu mets la main devant la bouche. Non. Le mohim, il faut des preuves. Des preuves aussi, pour dire que la chose elle est détestable, il faut une preuve. D'accord ? C'est pas à nous de dire que la chose elle est makrouh, ou la chose elle est mustahab, ou la chose elle est wajib, ou la chose elle est muharram, sans preuve. D'accord ? Même dans ces choses-là, les choses qui sont détestables et les choses qui sont recommandées, il faut que l'on ait des preuves. On ne peut pas parler et juger. Taïeb ? Où on était où là ? Non. ثم يقول تقيم الصلاة تقيم الصلاة أي تعدل أركانها وتؤديها في أوقاتها مع الجماعة بخشوع وخضوع وهي أساس العبادات العملية لهذا جاءت بعد الأمر بعقيدة التوحيد أي بعد الشهادتين
كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومعنى إقامة الصلاة الإتيان بها على الوجه الصحيح بدءا بالطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر على الوجه الشرعي بدون إسراف وبدون نقص وبدون مخالفات وانتهاء بأدائها وذلك بإقامة شروطها وأركانها وواجباتها وجميع هيئاتها من التكبير إلى التسليم كل شيء في موضعه. نعم.
Puis dit la deuxième adoration recommandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, l'accomplissement de la prière. L'accomplissement de la prière qui sera réalisé et concrétisé, bien sûr, par le respect déjà de ses piliers ou en l'accomplissant à son heure avec al-jama'a, le groupe, bi-khushu', avec recueillement, au khudu', soumission, humilité. Et donc cela est la base des adorations yani, corporelles, hein? Le recueillement, l'humilité. C'est l'heure. C'est pour ça que la prière est venue dans l'ordre, juste après l'aqida al-tawhid, la croyance du tawhid. D'accord? Juste après les deux attestations de foi, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Juste après, on a as-salat. Voyez, comme cela est venu dans le hadith d'Ibn Umar, qui va dans ce sens-là. Et donc, l'accomplissement de la prière, eh bien, c'est quand ça consiste à l'accomplir d'une manière correcte. D'une manière correcte. En commençant, bien sûr, à se purifier correctement. Donc la personne, avant de commencer à prier, elle doit se purifier. Et avant de se purifier, elle doit apprendre à se purifier correctement. Cela fait partie donc de iqamat al-salat. Parce qu'il n'y a pas d'accomplissement de la prière sans accomplissement des ablutions, de la purification. Légiférer. Taïe, que ce soit la purification par rapport au hadith asghar ou au hadith akbar. D'accord, le hadith mineur, l'impureté mineure et l'impureté majeure. On continue après l'adhan.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu akbar.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
طيب. Donc on a dit, la première des choses concernant l'accomplissement de la prière, apprendre à se purifier. que ce soit la purification vis-à-vis des impuretés mineures ou des impuretés majeures. D'une manière correcte, légiférée, sans idilishir, sans israf, sans gaspillage d'eau, et sans bien sûr de négligence ou de diminution, et sans faire de mukhalafat, sans faire d'actes qui s'opposent à la sunna ou qui contredisent la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, après avoir appris et maîtrisé la façon correcte de faire les ablutions et la purification, eh bien tu accomplis ta prière également correctement. Et avant même de l'accomplir, tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre à l'accomplir, tu dois connaître les conditions de la prière, dit le Cheikh, les piliers de la prière, les obligations de la prière, et tous les aspects yani, de la prière qui composent cette adoration-là, commençant bien sûr par le takbir, Allahu Akbar, finissant par le taslim, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hein? Wa kullu shay fi mawdi'ihi. Et chaque chose doit être fait et dit et mis à sa place. Vous voyez?
Anas,
pardon. Il y a combien de conditions de la prière? 9? 14? 9? 12? Conditions. Combien les frères, les conditions de la prière? Hein? C'est quoi, vas-y, bismillah. Les conditions de la prière. Les conditions, c'est des choses qui sont extérieures à la prière. Anas? Ah, si on connaît le chiffre, mais pas ce que c'est, ça sert à rien, les frères. C'est pas important les chiffres. Ce qui est important, c'est de savoir c'est quoi. L'islam. L'aqlu. Tamizu. Afu al-hadath. إزالة النجاسة ستر العورة دخول الوقت استقبال القبلة النية c'est bon, tu avais le bon chiffre mais c'est rare le chiffre Anas,
c'est rare
Anas, toi tu sais que tu sais qu'il y a 5 prières par jour, c'est bien, il y a 5 prières par jour. Mais si tu ne sais pas comment prier, ça ne sert à rien. D'accord? Naam, Hassan. Tiens, tu l'as sens? C'est dit. Kayfiyatu ziyarat al-masjid al-rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Tiens. Ça fait, on parle des piliers, on parle des obligations. Ouais, frère. Combien les piliers?
14.
Tu les connais? Hein? On a le temps ou pas? On a le temps, tu as 4 minutes, Inch'Allah. Bismillah. Tu fais le micro? Avant ça, avant le takbir l'ihram, il n'y a rien à faire avant le takbir l'ihram. Je peux prier assis? Je peux prier assis ou pas?
Mais...
Ah, je peux prier assis.
Tu peux, mais s'il y a une...
Je garde la chaise alors après.
Non.
Je suis bien là.
Non, ouais.
Non, oui.
Il y a une condition. Si t'es malade, quoi, tu peux, mais...
Non, commence par attendre les conditions. Rentre, Yanni, dans la globalité. La personne, elle est en bonne santé, mashallah. Hein? Est-ce qu'elle peut prier assise?
Non.
Ah ouais? On peut pas prier salat... Ratiba, pour prier assis. Elle peut? Même si elle est en forme et tout. Elle n'est pas malade.
J'avais vu une fatwa et je me suis
dit que c'est pour ça. Aide. Elle peut ou pas? De quoi? Ratiba? Prier assis, tu peux pas? Ratiba? Ouais. Elle peut ou pas? Ça, on l'a vu, hein? On l'a vu, ça. Premier pilier, les frères, al-qiyamu ma'al-qudra fil-fard. C'est tout. Se tenir debout en prière, avec bien sûr la capacité, d'accord, dans les prières obligatoires. C'est un pilier. Ça veut dire que dans les prières facultatives, c'est plus un pilier. C'est pas un pilier. D'accord? La personne est moins récompensée si elle prie assis, alors qu'elle peut prier debout. D'accord? Mais elle a le droit. Sa prière, elle est valide. Sauf pour les prières obligatoires. Les prières obligatoires, tu es obligé de prier debout si tu es capable. C'est bon? Hada fil fard. Ensuite, il y en a 2 minutes. Takbir. Takbirat al-Ihram, le premier takbir, ou celui de l'entrée en prière. D'accord? Ensuite, al-Ruku'a. Non, avant al-Ruku'a. Qira'at al-Fatiha. Lire al-Fatiha. Quatrième, al-Ruku'a, l'inclinaison. Cinquième, se relever du ruku'a, raf'a minhu. Sixième, sujoud, tayyib, raf'a min as-sujoud. Aidez-le, les frères, aidez-le, bismillah. Ensuite, non, se relever du sujoud,
la position assise.
Voilà, al-julous bayna as-sajdatayn, rester assis entre les deux prosternations. Ensuite, faire le mouvement de manière apaisée et assez lente pour pouvoir faire les invocations que tu dois faire. C'était la combien? Celle-là, la 9e ou 8e? C'était la 8e? Ensuite, à la fin, Teslim, à la fin.
Respecter l'ordre.
Allez, tartib, si tu veux. Tartib fi jami al-arkan. L'ordre de tous les piliers, naam. Zidou. Hein? Naam. Tashahud al-akhir. Le dernier tashahud. D'accord? C'est un pilier. Qu'est-ce qu'on a encore? Al-julous. Al-julous, les. Les tashahud, les taslimatayn, les taslimatan. On a manqué là, je n'ai que 12. Bon, fait khilaf. Bon, salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. On a combien? On a 13 là. On a mal compté alors. On a mal compté.
On n'a pas dit le repos.
Tma'nina, on a dit tma'nina.
Non, mais le fait de l'inclinaison.
Le fait de la. الاعتدال قائما الاعتدال قائما نعم certains ulama qui l'ont fait rentrer dans les piliers aussi الاعتدال قائما quand tu reviens de l'inclinaison et bien le fait que tu te tiennes debout droit avant de te prosterner et de redescendre voyez المهم il faut connaître tout ça les frères d'accord parce que cela rentre dans le terme iqamatus salat rentre dedans savoir faire les ablutions. Faire les ablutions, savoir prier, et prier bien sûr de la manière que Allah tabaraka wa ta'ala nous l'a demandé. Naktafi bihada inshallah ta'ala. Wal ilmu inda Allah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu sallam ala nabiyyana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ah oui, j'ai oublié, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit par rapport à un des rapporteurs qui s'appelle Abu Nu'aym. Abu Nu'aym ibn Dukayn. Et j'avais parlé d'Abu Nu'aym al-Asbahani. Al-Asbahani. J'avais dit qu'il était mort avant al-Bukhari. En fait, c'est l'inverse. C'est al-Bukhari qui est mort avant lui. Al-Bukhari, il est mort avant Abu Nu'aym al-Asbahani. C'est pour ça qu'il était impossible qu'il ait rapporté un hadith de ce Abu Nu'aym. D'accord? Allahu a'lam. Barakallahu fikum.